Si, le titre peut faire peur. En fait, il s'agit pas de vraiment de faire le récit de la guerre froide dans le roman africain. Et notre mise en garde, c'est que l'association roman et guerre froide vous a habitué notamment au récit d'espionnage, évidemment, ou des romans policiers sur fond de guerre froide. Il n'en sera pas question ici, en Afrique, puisque durant cette période-là, et même maintenant, il n'y a pas vraiment de roman d'espionnage comme tel. Donc, ce ne sera pas ça. Alors, ça sera quoi? Ça sera autre chose. Il s'agira de chercher les traces dans les romans africains, durant cette période très longue, que je situe entre 1953 et à peu près 2000 ou 1900. Au moins 90. Bon, peut-être quelques rappels sur le plan historique. Le conflit Est-Ouest, très présent en Afrique dès les indépendances, et même bien avant, a prolongé la violence coloniale. C'est-à-dire qu'au fond, pour les Africains, le début de la décolonisation de l'indépendance ne commence que dans les années 90. Pour une simple raison, que durant la période des années 60-90, c'est-à-dire les 30 périodes d'indépendance officielles, il s'agit en fait de délégations de pouvoir par les puissances ex-colonisatrices. Ce sont les faits historiques. Pourquoi? Parce que la peur du communisme et le conflit Est-Ouest s'est joué aussi sur le terrain africain, mais sur le plan politique. Et curieusement, les romans, la littérature en parlait très peu. C'est comme si c'était un tabou. Il n'y a que, à ma connaissance, deux ou trois textes, je veux dire les textes que je connais, et qui sont les plus connus aussi. C'est un texte de Césaire, publié en 1966, Ini saison au Congo, et qui effectivement évoque cette tragédie congolaise que vous connaissez sans doute par l'histoire, où s'est joué, le soir même de l'indépendance du Congo, le conflit Est-Ouest, donc entre l'Union soviétique et les États-Unis, par la Belgique interposée, qui était l'ancienne puissance coloniale. Bah, cette œuvre-là, c'est une pièce de théâtre très bien jouée, mais en même temps, il n'y a pas de distance avec l'événement politique. Un autre roman, c'est un roman de Mungo Betti, camerounais, Remember Reuben, qui évoque plus indirectement l'assassinat des leaders du parti de l'Union des peuples du Cameroun. C'est-à-dire où s'est joué aussi pour l'indépendance du Cameroun, il s'agissait d'éliminer ce qui se définissait comme communiste ou progressiste, comme il se définissait plutôt. Là aussi, il n'y a pas de distance. Le sujet est abordé directement, même si les noms sont changés. Mais le lecteur voit l'événement raconté directement. Bon, par contre, la critique africaine s'est appesantie durant cette période-là sur la période coloniale, avec les figures les plus communes à toutes les œuvres presque, le commandant du cercle, le missionnaire et le commerçant, grec ou libanais selon les cas. Et donc l'analyse du politique, mais à partir des récits romanesques essentiellement. Mais à la période de l'indépendance aussi, c'est souvent ça porte sur les figures dominantes, c'est la figure du dictateur et ses avatars, le parti unique, la langue de bois, etc. Mais sans nécessairement lier cette structure narrative ou cette analyse du personnage avec un arrière-plan, un fond idéologique qu'on peut lire comme trace dans le discours romanesque, et sans lier donc ces figures-là au contexte de la guerre froide. Il y a même très peu d'études, et la plus récente, c'est celle de la plus récente et la plus originale, et la première, à mon avis, c'est celle de Virginie Coulon dans Études des littératures africaines en 2013. Donc c'était récent, mais celle-ci ne s'intéresse pas à l'analyse des textes. Elle évoque par contre comment des appareils de diffusion de la littérature d'Union soviétique va créer des appareils de diffusion des textes pour les éventuels auteurs africains ou arabes. Parce que la revue Lotus, par exemple, Lotus, c'est publier notamment des fragments de textes de fiction en français, en anglais et en arabe, ou en arabe, selon l'auteur. Et on voit qu'ici se joue directement dans les institutions, à travers aussi l'Institut de film, Maxime Gorki, ou aussi à partir de la création de l'université Patrice Lumumba. Il s'agit en fait de capter ces élites du tiers-monde. Et par le biais de la littérature, on voit donc la revue Lotus essayant de publier des textes et quelques maisons d'édition. Mais c'est un phénomène plutôt marginal, puisqu'il n'y a pas de textes majeurs qui ont été publiés dans maisons d'édition soviétiques. Mais par contre, l'Institut de film, de cinéma, a formé beaucoup de cinéastes africains. Les premiers, et notamment le plus grand, on va y revenir, c'est Sembène Ousmane, qui a passé 2 ans là-bas et qui a été le premier grand cinéaste africain et qui le reste. Elle évoque dans cet article, Madame Coulon évoque aussi le rôle joué par les États-Unis et notamment par la création de la collection qu'on appelle les Nouveaux Horizons. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une collection qui s'adressait essentiellement aux instruits africains, mais surtout aux jeunes. Toute notre bibliothèque dans les années 70, quand on commençait l'école secondaire, c'était les livres les plus disponibles, Nouveaux Horizons, et qui diffusaient effectivement les grands personnages, les grandes figures de l'Américain, de le self-made man, les biographies de tennisman et d'autres, mais aussi les grands hommes politiques américains qui ont joué un rôle important pour l'anti-esclavagisme. Ce qui est intéressant, c'est que l'esclavagisme n'était pas évoqué dans ces textes-là. Cette maison d'édition existe encore. La différence avec les Russes, c'est que les Américains publiaient les textes dans les langues des lecteurs, c'est-à-dire on les lisait en français, traduit donc de l'anglais en français, on les diffusait par le biais de centres culturels américains. Donc c'était des romans d'édification ou des textes pour la jeunesse. Mis à part donc ce contexte-là, qu'est-ce que je propose? Je propose au fond d'analyser plutôt le genre romanesque et d'essayer de percevoir ou d'analyser ce conflit Est-Ouest dans les œuvres de cette époque-là, comme des traces. Ça peut être l'évocation, un personnage, par exemple le rôle d'une figure de la coopérative, travail en commun, ça peut être aussi la figure du syndicaliste, etc. Et il s'agira de voir au fond comment les structures narratives et surtout le discours finit par quand même évoquer cette période-là de façon subtile, de façon indirecte. Et je divise cette période en deux parties pour la raison suivante. Les romans des années 50 jusqu'en 70, 68 exactement, c'est la rupture. L'écriture change après 68. On ne sait pas pour quelle raison, mais c'est un constat. C'est la publication du texte de Kuruma que vous connaissez. Il est beaucoup plus médiatisé, il était. Les romans de la première génération sont des romans faits, somme toute, caractérisés par le réalisme comme récit. Des structures narratives simples. Il y a la dualité qui traverse les personnages opposés, la victime et le bourreau. L'espace aussi est dualiste. Il y a le village par rapport à la ville, et la ville déjà divisée. Il y a la partie habitée par le colon et la partie habitée par l'ouvrier africain. Et sur le plan discursif, avec une idée au fond, la victime, on la connaît, c'est l'Africain colonisé, et l'oppresseur, c'est le colonisateur. Bon, même si il y a des différences individuelles qu'on peut percevoir, et notamment pour le cas, c'est pour cela que j'ai choisi le cas de Saint-Ben Othman, en gros, tous les romans de cette période s'écrivent de cette façon-là. Et à partir de 68, donc, les choses changent, le discours, le récit devient ambivalent, polyphonique. Et comme nous allons le voir notamment dans le cas que j'ai choisi pour la période 68, 2000 de Henri Lopez. J'ai choisi donc deux écrivains emblématiques, Saint-Ben Othman et Henri Lopez. Autrement dit, de les prendre comme des exemples possibles, parce que la façon dont écrit Henri Lopez, somme toute, ressemble à la façon dont écrit Sonny Labutancy sur le plan de la polyphonie narrative. Bon, peut-être rappeler quelque chose, rappeler du contexte historique, et non pas pour l'amour de l'histoire, mais pour dire que les discours qui vont servir de cadre des paroles publiques, du discours individuel, sont construits, somme toute, à partir des années 30 et dans les années 50. Autrement dit, on ne peut pas penser l'Afrique actuellement sans évoquer le discours de la colonisation et le contre-discours, le discours de la négritude. Et donc, ces discours se sont construits durant cette période-là. Et 1945, évidemment, apporte un autre discours nouveau avec les Nations Unies, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont la déclaration de la fin de la colonisation. Par les deux grands vainqueurs, donc les Américains et les Russes, et par conséquent, ce discours entre dans l'espace public. Bon, il y a des grands récits à cette époque-là, c'est la colonisation égale civilisation, ça c'est le discours colonial. Le contre-discours, c'est Césaire 1950, dans un discours sur le colonialisme, colonisation égale chosification égale barbarie. Dans le discours de la négritude, nous allons voir que le discours de la négritude qui sommairement présenté serait l'idée que le passé précolonial africain est un Eldorado où l'individu était en symbiose avec la nature et avec la communauté. Donc, c'est que pour les tenants de la négritude, la modernité, c'est une sorte de rétro-modernité. Le futur est pensé à partir du passé. Nous allons voir que, malgré tout, certains auteurs, comme Saint-Ben Othman, rejettent cette idée parce qu'ils se définissent comme. Ils épousent ce qu'ils appellent le marxisme scientifique, c'est-à-dire transformer la société pour la rendre meilleure. Et évidemment, c'est l'idée que l'Afrique précoloniale avait aussi ses tares. Bon, d'autres discours qui se développent vraiment massivement à cette époque-là, c'est le discours anticolonialiste. Et la figure emblématique, c'est celle de Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre. On y revient. Et ça va diffuser vraiment les discours communistes, marxistes, qui opposent de façon manichéenne le colonisateur, l'exploiteur, le colonisé, la victime, etc. Et pour cause, derrière ça, au fond, si on va sur la place publique ou dans l'espace de la circulation des idées, c'est le rôle joué dans l'ombre, ce n'est même pas dans l'ombre, par les idées de Sartre. Parce que Sartre les préface pratiquement tous les textes majeurs qui sortent à l'époque, et notamment Les Damnés de la Terre, et qui prônent la violence, donc à la violence coloniale, il faut une violence anticoloniale pour obtenir l'indépendance. Et très vite, à cette époque, l'équation s'établit. Colonisation égale capitalisme, colonisé égale prolétaire, etc., etc. Donc, il y a une simplification qui va jouer dans l'action politique. Et autre chose, très rapidement, parce qu'il y a dans le roman aussi, dans ces textes-là, et surtout les textes des années 70 et au-delà, il y a ce qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique, c'est-à-dire la communauté France-Afrique, comme ça se dit, mais en réalité qui veut dire l'exploitation de l'ancienne puissance coloniale par des pouvoirs militaires interposés. Et le débat est en cours d'actualité, et notamment sur l'usage du franc CFA qui est toujours contrôlé par Paris. Et donc, au fond, c'est pour vous dire que les discours qui sont construits à cette époque-là sont encore d'actualité, et ma question étant, comment le roman en parle? C'est ça qui, je crois, nous intéresse le plus. Bon, c'est d'ailleurs François-Xavier Verschave, français donc anti-colonialiste, ce qu'il appelle dans le livre justement « La France-Afrique, le plus long scandale de la République » à 1998. Et ces textes donc deviennent en quelque sorte, bon, il y en a d'autres qui naissent par après, c'est l'idée de l'Afrique étant un continent perdu, l'idée de ce qu'on appelle l'afro-pessimisme, et qui, dont le texte majeur fondateur est celui de Ronan Dumont, agronome de formation, et ainsi, le titre m'échappe un peu, c'est où l'idée, ça veut dire que de toute façon l'Afrique est perdue, c'est en 1960, déjà. Et ça va revenir, cette idée, et le débat actuellement, l'Afrique c'est le continent du futur dans les discours publics, et les autres, l'Afrique est perdue, et on ne devient jamais neutre avec l'Afrique. C'est ça qui est aussi intéressant. Et dans tout ça, comment le roman dialogue avec ces discours, et notamment avec cette idée de la guerre froide, au fond, entre dans le roman, mais de façon indirecte. J'ai donné l'exemple de Saint-Ben Ousmane parce que Saint-Ben Ousmane est plus complexe que les autres. Il milite à la fois pour... Bon, d'abord, il est anti-négritude. Il est donc marxiste convaincu. Il est anti-négritude. Et pour lui, je présente en fait la position politique de l'auteur ou culturelle, c'est l'idée que dans cet espace de tyranno, il y a aussi les oubliés, ce sont les femmes. Et comment valorise-t-il cette figure de la femme? C'est par le biais de la littérature et du cinéma. Les grandes héroïnes, chaque fois, c'est toujours une femme. Voilà. Ou, quand il y a un homme qui est le héros, c'est toujours à côté, derrière, il y a toujours une femme. Et pourquoi? Parce qu'il a une idée, délié lui donc, c'est libérer les plus pauvres, les plus humbles, mais ce n'est pas seulement l'idée de l'Africain, mais c'est qu'il y a aussi une sorte de violence que subissent aussi les plus faibles. Voilà. Alors, il commence, Saint-Ben Ousmane, par la mise en abîme de la figure de l'écrivain engagé. C'est une mise en abîme déjà dans ces textes. Nous avons vu aussi que dans le roman que nous allons voir de Lopez, c'est aussi une mise en abîme de l'écrivain, mais ça sera l'inverse. Son engagement, nous allons voir que c'est complètement différent de celui de Saint-Ben Ousmane. Pour lui donc, il y condamne, donc Saint-Ben Ousmane au fond, ses récits développent en quelque sorte, une thèse et une morale d'action. Il y a les figures du pauvre et du peuple. Ce que doit être la littérature africaine, c'est déjà dit dans le texte. Le parcours narratif du peuple, donc, se double dans le discours métacritique sur ce que doit être la littérature et l'art du peuple. Et dans le premier texte, notamment publié Le Decker Noir, je cite le Decker Noir, donc la première citation, il est publié en 1956, il y met en place un personnage d'Yaoufala, qui est Decker, curieusement comme l'auteur lui-même, dans le port de Marseille. Et pendant ces moments de loisirs, il écrit un livre. Ce livre qu'il écrit, au fond, c'est la première citation donc, que vous voyez. Il y précise ce qu'il faut. Il a appris à détester les poètes, les peintres, qui ne montraient que ce qui est beau, qui chantaient la gloire du printemps, etc., etc. Et donc, fallait-il être naïf pour s'y laisser prendre? Il s'agit donc pour lui d'écrire pour un texte qui doit changer la mentalité, comme il le dit. Et le roman ici reprend le discours critique de l'époque. C'est-à-dire que tous les écrivains, et notamment Mongobetti, s'était attaqué à un écrivain guinéen, Camaralai, dans L'Enfant Noir, que dans L'Enfant Noir, il n'y avait pas une attaque contre la colonisation. Autrement dit, le roman ici reprend le discours critique et l'adopte et le fait sien. Il en est de même dans un autre roman qui s'appelle Harmattan, qui est un titre de son roman, mais qui est aussi, au fond, une métaphore, une mise en abyme de l'ensemble du récit, puisque c'est à la fois le titre d'une œuvre d'un peintre, d'une œuvre d'un poète, et que l'Harmattan finalement, il représente toute l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'Harmattan aussi, c'est le vent qui souffle. L'Harmattan, c'est ce vent qui souffle d'est à l'ouest, en Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi le vent qui souffle de l'indépendance, parce que le texte évoque, au fond, une date précise, c'est le 28 septembre 1958. C'est le jour où les colonies de l'Afrique française, les 14 pays, devaient choisir entre l'autodétermination, l'indépendance ou rester avec la coopération avec la France. Bon, on connaît l'histoire par après. Il s'agit donc, c'est maintenant deuxième citation. Vous voyez donc que l'Harmattan, ici, on voit que l'auteur joue avec cette mise en abîme de l'écrivain pour en fait élaborer son esthétique. Bon, l'autre figure, une fois qu'il a mis en place ce dispositif esthétique, si je puis dire, maintenant les figures, quels sont les personnages? Il y a la figure du peuple, de l'ouvrier et du pauvre. L'ouvrier qui peut devenir syndicaliste. On voit par exemple, encore une fois dans Decker Noir, le côté, il y a des victimes, sont des ouvriers, et il y a des oppresseurs, c'est le système économique et judiciaire. Il est raconté dans ce texte, en fait, très simplement, c'est que Diaoufala, il a terminé un manuscrit qu'il a présenté à une éditrice, et l'éditrice l'a publié à son nom, et que finalement, Diaoufala doit tout simplement la tuer. Et donc, un crime énorme, et on le condamne, mais le discours, en fait, atténue la gravité du crime en le présentant comme un justicier. On voit, par exemple, qu'au fond, il est mort, certes, mais il est victime du système qui n'a pas pu, au fond, le protéger, en quelque sorte. Dans Au pays où mon beau peuple, c'est la figure de la coopérative. Et c'est là où le discours socialiste, marxiste se révèle à travers cette figure de la coopérative. Pourquoi? Parce que dans la coopérative, il s'agit des paysans qui produisent le riz, mais qui le vendent à un prix vil aux colons. Et Omar Fall, c'est son nom, donc le personnage central, vient de France. Il a épousé une Française, encore un crime de lèse-majesté, aussi bien pour sa famille que pour les colons. Il faut pas corrompre, il faut pas polluer la race. Et les colons le combattent donc, mais aussi ses parents et tous les vieux du village. Il devient seul, finalement, en fait, il mourra. Mais au fond, il mourra, après tout, il y mourra, mais il sera toujours comme le héros incompris, celui qui avait des valeurs positives qui lui restera et qui défendait donc les intérêts du menu peuple. On voit donc qu'ici, il s'agit d'une évocation du système économique socialiste, la mise en commun des moyens de production pour augmenter la richesse commune. Et systématiquement, cette idée revient par des exemples, par de petits récits. Et l'autre figure qui est omniprésente dans ces romans, c'est l'image de la religion opium du peuple, un peu à la manière du marxisme. Et vous avez des exemples, je vous ai donné, bon, je vous ai donné peut-être beaucoup d'exemples aussi, au fond, je vous en ai donné au moins trois. Ah, pourquoi? Parce qu'au fond, derrière ça, il y a une idée que chaque fois qu'il y a l'oppression coloniale, il y a toujours la religion musulmane et la religion chrétienne qui s'unissent à la voix de l'oppresseur. Bon, c'est ce que plus tard, d'ailleurs, on voit qu'il y présente, vers la fin, on va y arriver, comme, je le dis dès maintenant, puisque on y arrive, qu'au fond, c'est une idée qui revient dans tous les romans de cette période, c'est que le missionnaire, le commerçant, grec ou libanais, et le commandant sont en fait trois têtes d'un même serpent, et ou d'un même bras, selon les images, qui exploitent en fait le colonisé ou le peuple. Autrement dit, même si dans ce texte-là, c'est Omar Fall meurt, il rappelle quand même aussi, en quelque sorte, des héros de l'espace public. C'est comme Patrice Lumumba, trahi par ses pères et par des puissances étrangères aussi. Ou Ruben Niobe, le leader camerounais dont on trouve justement les échos dans le roman éponyme de Mongo Betty. Un autre roman, très rapidement, c'est Les bouts de bois de Dieu. Le bout de bois de Dieu, en fait, évoque un fait historique, c'est la construction du chemin de fer Dakar-Niger. Et il y a une grève des cheminots qui demandent simplement, comme tous les grévistes, généralement, l'augmentation de salaire. On refuse, ils entrent en grève, on les met en prison, et immédiatement, les femmes prennent le relais. Ils font la grève, vont sur le Dakar, et finalement, bon, ça se termine bien, comme souvent. Les femmes, finalement, deviennent en fait des héroïnes, commandées par une figure emblématique qui est devenue d'ailleurs le nom éponyme des personnages du roman de l'Afrique de l'Ouest, Ramatoulaye, et avec son mari, Bakayoko. Voilà. À la fin, donc, cela rappelle au fond pour Saint-Benz, comme je le disais, que derrière cet usage de l'utopie égalitaire et dans cet espace de tyranneau, il y a aussi au fond que les hommes s'y écrasent, en fait, en quelque sorte, et les femmes. Et son choix, c'est de les faire des héroïnes. Et le texte, notamment, dans son film très, 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 très bien fait, sorti en 2005, Molade, qui, effectivement, fait la synthèse sur la situation de l'excision de jeunes filles en Afrique de l'Ouest. Et c'est, il a choisi, au fond, la littérature ou l'art pour régler les problèmes de la société. Voilà. Pour l'art, maintenant, je pense que je vous ai donné suffisamment de textes sur Saint-Ben Osman. L'art, maintenant, donc, c'est la même chose si on revient sur la religion. Sixième citation que je trouve très intéressante, c'est l'idée que, au fond, la religion et l'impérialisme colonial, au fond, c'est comme des souris qui se mettent à deux pour grignoter le pied du dormeur. L'une souffre, l'autre ronge. Celle qui souffle, c'est la religion. Celle qui ronge, c'est l'impérialisme. Donc, on voit déjà que tout est campé. Conclusion partielle sur l'œuvre de Sayben Ousmane. Les romans de Sayben, au fond, représentent, sur le plan narratif, tous les romans de la période des années 50-70. Ce sont des romans engagés, avec la volonté de changer le monde. Le mal est dénoncé et le bien valorisé. Chez Sayben en particulier, l'utopie de l'égalité que représentent les idées socialistes est clairement établie à partir des figures stéréotypées, typiques. La coopérative, la religion, égale l'opium du peuple, la lutte des classes, pauvres contre le riche, ouvriers colonisés, patrons, colonisateurs ou le syndicaliste. Voilà donc les figures typiques. Sayben donc est contre aussi la négritude. Et pour cause, la négritude en fait ne va pas avec ce qu'ils appellent le marxisme scientifique. Parce que le credo de base, c'est la transformation de la matière, changement des mentalités anciennes. Sur ce plan, mais par contre, sur le plan de l'écriture, sur le plan de la langue, il n'y a pas de polyphonie, il n'y a pas de plurilinguisme, c'est le style classique. Tous ces écrivains-là, que ce soit Sayben, Mongobetti et d'autres, ils utilisent un style classique que certains critiques ont dénoncé en disant bon, c'est le discours de l'école ou c'est la langue de l'école. Ben, voilà. Ce qui sera différent avec les écrivains des années 70, et notamment avec, pour commencer avec Kuroma, mais nous allons voir en fait le roman de Le pleurer rire d'Henri Lopez. Henri Lopez qui est Congolais, Congo, de Brazzaville, mais en fait qui est né à Congo-Kinshasa, ou la République démocratique du Congo. Voilà. C'est un texte représentatif des autres, notamment par la polyphonie, notamment par l'usage des langues éclatées, toutes les théories de Bakhtine sur le sujet, il trouve son compte. Donc, vous connaissez. Je résume un peu. Quel est le contexte? Le contexte des années 60, donc, vit sous des régimes politiques tyranniques soutenus par des anciennes puissances coloniales, sous prétexte de contrer l'avancée du communisme sur le continent. Au fond, les écrivains dénoncent les systèmes de parti unique et ses avatars que l'incompétence, la corruption, l'absence de débat et surtout le tribalisme. Au fond, durant cette période, tout se passe comme en fait, durant la colonisation, une tribu, c'est les blancs, le prêtre, le commandant, le commerçant, avait coopté le pouvoir avec une autre tribu africaine, celle du chef militaire régnant. Et que le débat politique est interdit pendant la colonisation et après la colonisation. C'est ça plus ou moins le contexte. Je résume, mais c'est ça au fond le contexte. C'est pour cela que je disais au fond que cette période-là est vue et considérée comme étant une période de continuation logique du point de vue de la libération de l'espace public. Le résumé, très simplement, il s'agit. Je vous ai donné en fait une liste de personnages pour que vous puissiez vous y trouver. Je me suis arrêté à 12, je crois. 16. 20. Oh, ben voilà. Et il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Parce qu'en bout de ligne, on se demande, est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que tous ces personnages, au fond, il y en a très peu? Mais chaque personnage, au fond, est associé avec un récit secondaire. Mais quel est le récit principal, que je considère le principal, ça dépend du lecteur, c'est que Polé Polé, c'est-à-dire aller lentement en swahili, chef d'État du pays nommé pays et renversé par un coup d'État. Quelques jours après, un conseil patriotique de résurrection nationale est mis en place. Il est dirigé par le colonel Gakama Benasakade Idelwa Hannibal, promu chef de l'État et maréchal des armées. Il est soutenu en coulisses par un agent français, Gourdin, qui est responsable de la sécurité nationale et responsable de la disparition des opposants. Alors, vous voyez le jeu avec Gourdin aussi, c'est-à-dire l'outil de torture pour frapper. Le jeu aussi, une tentative de coup d'État visant à ramener Paulé Paulé au pouvoir échoue. Paulé Paulé vit en France tranquillement, il ne veut plus rien savoir du politique. Le colonel Araka, le chef du coup d'État manqué, trouve refuge dans l'ambassade de l'Ouganda, mais il est livré par nul autre, Idi Amin Dada, le grand dictateur de l'Ouganda, à son homologue, donc le maréchal Gwakamabe. Accusés de complicité, d'autres officiers sont tués, sont arrêtés, fusillés et tués. Ils sont accusés d'être des agents des Russes et des Cubains. C'est la seule, d'ailleurs, les seules pages, à peu près 88 à 88 jusqu'à 91, c'est les seuls passages où on évoque effectivement directement la présence, ces figures de le rôle joué par Cuba, surtout les Barbados, durant la libération de la guerre d'Angola. Sur le plan de l'écriture, le roman est complexe, très complexe, parce que d'abord il est raconté qui est l'auteur. L'auteur, c'est une mise en abîme aussi de l'écrivain, c'est le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel dont vous avez vu, c'est lui qui va raconter finalement, qui va être les témoins de l'histoire, de cette histoire-là, qui est un homme du peuple, un homme simple, et qui est projeté devant les feux de la rampe pour une simple raison, qu'il fait partie de la tribu du chef de l'État. Or, il y a donc, à côté de cette histoire sur la dictature, il y a d'autres histoires qui ne sont pas en fait des récits enchâssés à proprement parler, mais plutôt des récits juxtaposés. Parce que, par exemple, le récit des aventures sexuelles du narrateur ou de l'auteur ne recoupe pas le récit principal. Ou d'autres récits, comme par exemple la foule, ou le peuple, ou la rumeur, qui raconte de petits récits ici et là, n'entre pas en ligne, ne recoupe pas non plus les récits des aventures sexuelles du maître d'hôtel, ne recoupe pas non plus le récit de l'histoire politique. C'est donc, comme dirait Bakhtin, un assemblage de styles et un système de langue. Beaucoup de niveaux de langue, effectivement, traversent le roman, et ils sont très nombreux, comme les protagonistes du roman. C'est donc un roman vraiment carnavalesque. Il est touffu et il est caractérisé par le mélange du sérieux et du comique, du sublime, du grotesque et avec une totale ambivalence. Il est très difficile de dire au fond quel est le message de ce roman. Rien, sinon de raconter des histoires. Voilà. Il y mélange donc, c'est le contraire du style de Saint-Ben Ousmane, donc le contraire du style classique. Vous avez par exemple, je vous donne un exemple. Premier exemple, c'est vous avez un langage très recherché, très imagé. Premier exemple numéro 1 de la citation. Quand il s'agit d'évoquer la beauté de Madame Berger, en fait, ici les questions, vous voyez, mais plus bas, vous avez par contre de l'oralité. On revient déjà à les noms même des auteurs. Soukal, il signifie sucre, donc le nom de l'une des maîtresses de maître d'hôtel. Elengi signifie plaisir, autrement dit, oh, sa femme, donc, et à tout enjeu, donc, qui connote la sexualité, le bas du ventre. Même le prénom Hannibal, au fond, il peut faire référence aussi à animal, au fond, à l'animalité. Même c'est vrai qu'il évoque son chef militaire de Carthage, mais en même temps, il peut aussi jouer. Il a tout un jeu de mots, tout comme Gourdin, Monsieur Gourdin, donc le conseiller français, il y rappelle aussi qu'il joue le rôle de la répression. Il y a tout un jeu de mots et tous les noms propres, au fond, dénotent une sorte d'oralité. Il y rappelle ici, entre parenthèses, un autre auteur de la même période, qui est congolais aussi, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Nikoniku, le prince consort. Mais quand on le lit, ce n'est pas écrit comme ça, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, il faut le dire, il faut le dire pour comprendre en fait ce que le titre est dit. Mais c'est la même époque, c'est Chikaotam aussi, c'est la même époque. Donc, on voit que le titre est lui-même au fond. Pleurer et rire en même temps évoque ce carnavalesque et cette opposition, le paratexte déjà pour nous le dire. Bon, il y a le personnage du président fondateur, du président du sauveur, le chef messianique, il est ridiculisé. Je pourrais, pendant l'exemple numéro 2, je pourrais pendant des heures vous imiter le discours de Tonton, comme celui de ses pères. Vous y laissez prendre et parierez que j'ai suivi les cours de formation de l'école des chefs d'État. Il y a tout un jeu là-dessus, l'éthique de parole. Il a vraiment un corps grotesque. Il est incapable, souvent il est même sympathique, parce qu'il va essayer de prononcer comme il faut, mais il n'y arrive pas. Il y a d'autres, ce qu'il fait, qui, au fond, il n'est pas conscient, et ça, c'est le grotesque de situation classique. Tandis qu'ici, parfois, il inspire pitié. Donc, au fond, ici, derrière le dictateur est rabaissé au rang de simple citoyen, mais en même temps aussi, le personnage de maître d'hôtel, qui vient d'un milieu pauvre, n'est pas tout à fait pauvre, c'est un être intermédiaire, une sorte de parasite. C'est lui qui, au fond, est nommé, comme parce qu'il fait partie de la tribu du chef, parce que le chef a besoin d'un maître d'hôtel avec qui il peut faire confiance, à qui il fait faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il va faire le maître d'hôtel? Il est déjà amant de la femme Soukari, d'un homme important, directeur des douanes et de l'inspecteur général. Il finira aussi par devenir en fait l'amant de la première dame. C'est-à-dire, au fond, ses exploits, c'est des exploits de coucherie. Celui qui est supposé, d'où effectivement, c'est le troisième exemple, j'essaie d'aller plus vite, c'est le troisième exemple que je vous donne. Il est discuté dans ce texte-ci, l'autoparodie de l'écrivain, par une sorte de mise en abîme, parce que le récit s'est fait en fait par un récit épistolaire, décalé de l'histoire de sérieuse du politique. C'est comme si le maître d'hôtel demandait à son correspondant ce qu'il faut écrire pour que son texte soit sérieux. Et l'autre lui conseille de ne pas raconter trop ses histoires sexuelles, ça fait pas sérieux. À ce stade du récit, venait une scène de rencontre avec ma Mireille. Je l'ai effectivement écrite, mais en la relisant, j'ai moi-même frémi. Non pas, je précise, en raison de talent d'imagination de l'auteur, de ses pages, mais bien à cause de la richesse créatrice dont ma Mireille fait preuve dans les doigts de son amant. Voyez donc ici, au fond, il ridiculise même la fonction d'écrivain. C'est-à-dire qu'on est loin de l'écrivain engagé, dans la figure emblématique de l'écrivain engagé de Saint-Ben Ousmane. Bon. En fait, l'exemple 4 va dans le même sens aussi, au fond, c'est dans le même sens. C'est l'objectif fondamental de tout écrit engagé. Le mot est lâché. Au fond, or, justement, le texte sérieux engagé pour changer le politique, finalement, c'est un maître d'hôtel parasite qui ne se contente que de raconter les exploits, ses prouesses, ses exploits sexuels. Voilà. On peut noter aussi le gros texte des situations, les titres, l'accumulation des titres du président, qu'on appelle aussi tonton. Qui oubliera, c'est l'exemple 5, qui oubliera l'entrée du maréchal Hannibal Ibeloa Bracamabe, Nasakade, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, président du Conseil national des élections nationales, père recréateur du pays, titulaire de plusieurs portefeuilles ministériels, à citer dans l'ordre hiérarchique, sans en oublier un seul, de fils Ngakoro, fils de Fulema, fils de Kilewa. Ou plus loin, il y a aussi une autre scène, c'est à la page 100, où on voit effectivement la séquence du maréchal Tonton descendre du ciel. Au fond, qui rappelle en quelque sorte, peut-être on sort du texte, mais à cette période-là, et ça fait référence, ou quand il évoque notamment les fétiches du président, il parle notamment de sa queue de lion, ça peut être aussi son bâton de léopard, ou son chapeau de léopard comme Mobutu, et qui effectivement commençait la voix de la télévision zaïroise à 5 heures du matin s'ouvrait avec l'image. On voyait les images, les nuages, progressivement, une voix tonnait, et après on voyait progressivement la figure du maréchal Mobutu, et l'hymne national décollait. On voit ici, au fond, ce clin d'œil, au fond, si ce grotesque, cette accumulation de titres. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, sinon revenir notamment au discours paratextuel, quand il évoque Beaumarchais, le narrateur évoque Beaumarchais, l'exergue donc du pleurer-rire. J'ai beau pleurer, il faut toujours que le rire s'échappe par quelques coins. C'est ça, au fond, c'est le début, s'ouvre comme ça, et à la fin aussi, se termine sur l'idée que, au fond, qu'est-ce qui reste de cette mise en scène, sinon le rire. Autrement dit, on voit comment, mis à part les figures du parti unique, quelques références au conflit Est-Ouest, quelques références à la présence de France-Afrique par le conseiller militaire français, caricaturé aussi, puisque au fond, c'est les diplômes dont il est question, on dit qu'il a assisté à des cours à Sciences Po. Finalement, derrière ça, au fond, c'est de montrer qu'au fond, cette période-là, c'est le grotesque de situation qui domine. Il n'y a donc pas un discours sérieux qui rappellerait l'idée que le discours communiste galvaniserait ou signifierait une nouvelle utopie. C'est les romans, dans le sens où nous le pensons, c'est-à-dire caractérisé par une ambivalence axiologique, comme le dit Milan Kundera dans Les Testaments trahis. Quelle est la différence entre les romans de la première génération et les deuxièmes? Je l'ai dit au fond, c'est que dans les romans des années 50, la génération Saint-Ben, les valeurs sont clairement assumées pour le projet de société. Même s'il y a des romans, au fond, qui insistent sur le statut de la victime du colonisé, Dans le cas de Saint-Ben, au fond, le colonisateur prend les armes et devient maître du jeu. Chaque fois, donc, c'est lui qui, de tous les écrivains, est le plus marxiste, parce que le plus faible finit par avoir le pouvoir de gagner sur le plus fort. Les romans des années 60 et 70, donc, ce sont des romans caractérisés par le rythme dominant, par la polyphonie, où le héros messianique n'est plus possible. C'est-à-dire, au fond, d'où cette mise en abîme, d'ailleurs, d'un écrit de maître d'hôtel intéressé par ses conquêtes féminines que par l'intérêt public. Merci.